Chapitre 33. Le récit du prince. Harry resta à genoux aux côtés de Rogue et le regarda simplement. Jusqu'à ce qu'une voix froide et aiguë parle soudain si près de lui qu'il se releva d'un bond, la flasque étroitement serrée dans sa main, en pensant que Voldemort était revenu dans la pièce. La voix de ce dernier résonnait contre les murs et le plancher, et Harry se rendit compte qu'il s'adressait en fait à Poudlard et à ses environs. Les habitants de Pré-aux-Lard et tous ceux qui se battaient dans le château allaient l'entendre aussi clairement que s'il avait été derrière eux, son souffle sur leur nuque, suffisamment près pour leur infliger un coup mortel.
« Vous avez combattu vaillamment !»
disait la voix haute et glacée.
« Lord Voldemort sait reconnaître la bravoure !» Mais vous avez aussi subi de lourdes pertes. Si vous continuez à me résister, vous allez tous mourir un par un. Je ne le souhaite pas. Chaque goutte versée d'un sang de sorcier est une perte et un gâchis. Lord Voldemort est miséricordieux. J'ordonne à mes forces de se retirer immédiatement. Vous avez une heure. Occupez-vous de vos morts avec dignité. Soignez vos blessés. Maintenant, je m'adresse à toi, Harry Potter. Tu as laissé tes amis mourir à ta place au lieu de m'affronter directement. J'attendrai une heure dans la forêt interdite. Si lorsque cette heure sera écoulée, tu n'es pas venu à moi, si tu ne t'es pas rendu, alors la bataille recommencera. Cette fois, je participerai moi-même au combat, Harry Potter. Je te trouverai et je châtierai jusqu'au dernier homme, jusqu'à la dernière femme, jusqu'au dernier enfant qui aura essayé de te cacher à mes yeux. Une
Ron et Hermione regardèrent Harry et hochèrent frénétiquement la tête en signe de dénégation. « Ne l'écoute pas !» dit Ron. « Tout ira bien !» ajouta Hermione d'un ton farouche. « On va revenir au château. S'il est parti dans la forêt, il faut qu'on réfléchisse à un nouveau plan. » Elle jeta un coup d'œil au corps de Rogue, puis retourna précipitamment vers l'entrée du tunnel. Ron la suivit. Harry ramassa la cape d'invisibilité et regarda à nouveau Rogue. Il ne savait plus ce qu'il devait ressentir. À part de l'horreur, en pensant à la façon dont Rogue avait été tué et à la raison pour laquelle ce meurtre avait été commis. Ils remontèrent le tunnel en sens inverse, sans dire un mot, et Harry se demanda si, comme lui, Ron et Hermione entendaient toujours la voix de Voldemort.
« Tu as laissé tes amis mourir à ta place au lieu de m'affronter directement. J'attendrai une heure dans la forêt interdite. Une heure !»
On aurait dit que de petits tas de vêtements parsemaient la pelouse devant le château. L'aube allait se lever dans une heure environ, mais pour l'instant, c'était encore la nuit noire. Tous trois accoururent vers les marches de pierre. Ils virent un sabot solitaire de la taille d'une barque abandonnée là. Il n'y avait pas d'autres traces de Grope, ni de son agresseur. Le château était étrangement silencieux. On ne voyait plus d'éclairs lumineux. On n'entendait plus de détonations, plus de cris. Les dalles du hall d'entrée déserté étaient tachées de sang. Des émeraudes toujours répandues sur le sol, mêlées aux morceaux de marbre et aux débris de bois. Une partie de la rampe d'escalier avait été détruite.
« Où sont les autres ? »
murmura Hermione. Ron les entraîna dans la grande salle. Harry s'arrêta sur le seuil de la porte. Les tables des maisons avaient disparu et la salle était bondée. Les survivants, debout par groupes, se tenaient par le cou. Les blessés, rassemblés sur l'estrade, étaient soignés par Madame Pomfraîche, aidée d'une équipe de volontaires. Firenze comptait parmi les blessés, le flanc ruisselant de sang. Il était allongé, secoué de tremblements, incapable de se relever. Les morts étaient étendus côte à côte, au milieu de la salle. Harry ne voyait pas le corps de Fred, caché par sa famille qui l'entourait. George était agenouillé auprès de lui, Mrs. Weasley affalée sur la poitrine de son fils, tremblait de tout son corps. Monsieur Weasley lui caressait les cheveux, le visage inondé de larmes. Sans dire un mot à Harry, Ron et Hermione s'éloignèrent. Harry vit Hermione s'avancer vers Ginny, dont le visage était tuméfié, marbré, et la serrait contre elle. Ron rejoignit Bill, Fleur et Percy, qui lui passa un bras autour des épaules. Tandis que Ginny et Hermione s'approchaient du reste de la famille, Harry eut une vision claire des corps allongés à côté de Fred. Rémus et Tonks, pâles, immobiles, le visage paisible, semblaient endormis sous le ciel nocturne du plafond ensorcelé. Reculant d'un pas chancelant, Harry eut l'impression que la grande salle s'envolait, rapetissait, se ratatinait. Il n'arrivait plus à respirer. Il ne pouvait supporter de contempler les autres corps, de voir ceux qui étaient morts pour lui. Il ne pouvait supporter l'idée de rejoindre les Weasley, de les regarder dans les yeux, alors que s'il s'était rendu dès le début, Fred ne serait peut-être pas mort. Il se détourna et monta quatre à quatre les marches de l'escalier de marbre. Lupin, Tonks. Son seul désir aurait été de ne plus rien ressentir. Il aurait voulu s'arracher le cœur, les entrailles, tout ce qui criait en lui. Le château était entièrement vide. Même les fantômes semblaient s'être joints à la veillée collective dans la grande salle. Harry courut sans s'arrêter, la main crispée sur la flasque de cristal contenant les dernières pensées de Rogue, et ne ralentit l'allure que lorsqu'il arriva devant la gargouille de pierre qui gardait le bureau du directeur.
« Mot de passe !»«
Dumbledore !» répondit Harry sans réfléchir, car c'était lui qu'il désirait voir plus que tout. À sa grande surprise, la gargouille s'écarta, révélant l'escalier en colimaçon qui se trouvait derrière. Mais quand il fit irruption dans le bureau circulaire, Harry constata un changement. Les tableaux accrochés au mur étaient tous vides. Pas un seul portrait de directeur ou de directrice n'était resté dans son cadre. Apparemment, ils avaient filé vers les autres tableaux alignés dans le château pour pouvoir suivre de près les événements. Harry jeta un regard désespéré au cadre vide de Dumbledore juste derrière le fauteuil du directeur, puis il lui tourna le dos. La pancine de pierre se trouvait dans l'armoire où elle avait toujours été rangée. Harry la souleva, la posa sur le bureau et versa les souvenirs de Rogue dans la large bassine au bord gravé de runes. Fuir dans la tête de quelqu'un d'autre serait un soulagement, une bénédiction. Rien, même si c'était Rogue qui le lui avait laissé, rien ne pouvait être pire que ses propres pensées. Les souvenirs d'un blanc argenté se mirent à tournoyer, étrange. Et sans hésiter, avec un sentiment d'abandon dénué de toute prudence, comme si cela allait apaiser le chagrin qui le torturait, Harry plongea. Il tomba tête la première et se retrouva en plein soleil, atterrissant sur un sol tiède. Lorsqu'il se redressa, il s'aperçut qu'il était sur un terrain de jeu presque désert. Une immense cheminée solitaire dominait au loin l'horizon. Deux fillettes se balançaient et un petit garçon efflanqué les observait, caché derrière des buissons. Ses cheveux noirs étaient trop longs et ses vêtements si dépareillés qu'on aurait pu croire que c'était fait exprès. Un jean trop court, une veste miteuse et trop grande, qui aurait pu être celle d'un adulte, une chemise bizarre, semblable à une blouse. Harry s'approcha du garçon. Rogue n'avait pas l'air d'avoir plus de 9 ou 10 ans. Il était petit, filiforme, le teint cireux, avec une expression d'avidité non dissimulée sur son visage maigre. Il regardait la plus jeune des deux fillettes se balancer de plus en plus haut, beaucoup plus haut que sa sœur.
« Lily, arrête !» s'écria l'aînée.
Mais l'autre fillette avait lâché la balançoire au moment où elle atteignait son point le plus élevé et s'était envolée, littéralement envolée, s'élançant vers le ciel dans un grand éclat de rire. Cependant, au lieu de retomber en s'écrasant sur l'asphalte, elle poursuivit sa course, telle une trapéziste, et resta dans les airs beaucoup trop longtemps avant d'atterrir avec beaucoup trop de légèreté pour que cela paraisse naturel.
« Maman t'avait dit de ne pas faire ça !»
Pétunia arrêta sa balançoire en raclant le sol avec les talons de ses sandales qui crissaient par terre, puis elle se leva d'un bond, les mains sur les hanches.
« Maman a dit que tu n'avais pas le droit, Lily !»«
Mais tout va très bien !»
répliqua Lily qui continuait à glousser de rire.
« Et maintenant regarde, Tunir, regarde ce que j'arrive à faire !»
Pétunia jeta un coup d'œil alentour. À part elle et Rogue, mais les fillettes ignoraient sa présence, le terrain de jeu était désert. Lily avait ramassé une fleur tombée du buisson derrière lequel Rogue était tapis. Pétunia s'avança, manifestement déchirée entre la curiosité et la désapprobation. Lily attendit que sa sœur soit suffisamment prête pour bien voir, puis elle tendit sa main. La fleur posée sur sa paume ouvrait et refermait ses pétales, telle une huître étrange aux multiples coquilles.
« Arrête !»
s'égosilla Pétunia.
« Mais elle ne te fera pas de mal !»
assura Lily. Mais elle referma quand même la main sur la fleur et la jeta par terre.
« Ce n'est pas bien !»
dit Pétunia. Son regard, cependant, avait suivi la chute de la fleur et s'attardait à l'endroit où elle était tombée.
« Comment tu t'y prends ? »
ajouta-t-elle. On sentait une certaine envie dans sa voix.
« C'est évident, non ?»
Incapable de se contenir plus longtemps, Rogue avait bondi de derrière les buissons. Pétunia poussa un cri aigu et retourna en courant vers les balançoires. Lily, en revanche, bien que visiblement surprise, resta où elle était. Rogue sembla regretter d'être sorti de sa cachette. Il regarda Lily et ses joues jaunâtres se colorèrent d'un rouge terne.
« Qu'est-ce qui est évident ?»
demanda Lily. Rogue paraissait à la fois surexcité et intimidé. Jetant un coup d'œil à Pétunia, qui tournait autour des balançoires, un peu plus loin, il baissa la voix et murmura.
« Je sais ce que tu es. Comment ça ? Tu es une sorcière, »
chuchota Rogue. Lily parut offensée.
« C'est pas très gentil de dire ça à quelqu'un. »
Elle tourna la tête, levant le nez en signe de dédain, et s'éloigna à grands pas en direction de sa sœur.
« Non !»
s'écria Rogue. Son visage avait fortement rougi, et Harry se demanda pourquoi il n'enlevait pas cette veste ridiculement trop grande, à moins qu'il n'ait craint de montrer la chemise en forme de blouse qu'il portait en dessous. Il courut vers les fillettes, les pans de sa veste lui battant les flancs. Il avait déjà cette apparence de chauve-souris grotesque qu'il conserverait avec l'âge. Les deux sœurs l'observèrent, unies dans leur désapprobation, se tenant toutes deux à un montant des balançoires comme si c'était un refuge sûr dans un jeu de chat perché.
« Tu es une sorcière !»
dit Rogue à Lily.
« Tu es une sorcière, je l'ai bien vu, je t'observe depuis un bout de temps. Mais il n'y a rien de mal à ça, ma mère aussi en est une, et moi je suis un sorcier. »
Le rire de Pétunia eut l'effet d'une douche froide.
« Un sorcier !»
s'écria-t-elle. Elle retrouvait tout son courage maintenant qu'elle avait surmonté le choc de son apparition soudaine.
« Je sais qui tu es. Tu es le fils Rogue. Ils habitent dans l'impasse du Tisseur, près de la rivière, »
dit-elle à Lily. D'après le ton de sa voix, il était clair qu'elle considérait l'adresse comme peu recommandable.
« Pourquoi tu nous espionnais ?»«
Je vous espionnais pas, »
répliqua Rogue. Les cheveux sales, il avait chaud et il était mal à l'aise sous le soleil brillant.
« De toute façon, ce n'est pas toi que j'aurais espionné, » ajouta-t-il d'une voix méchante. « Toi, tu es une moldue !»
Bien que de toute évidence, Pétunia n'eût pas compris le mot, le ton ne pouvait la tromper.
« Lily, viens, on s'en va !»
dit-elle d'une petite voix perçante.
Lily obéit aussitôt à sa sœur et lança à Rogue un coup d'œil furieux en s'éloignant. Il les regarda franchir d'un pas vif l'entrée du terrain de jeu, et Harry, resté seul à l'observer, remarqua l'amère déception de Rogue, comprenant qu'il avait préparé ce moment depuis un certain temps, mais tout s'était mal passé. L'image qu'il avait devant les yeux se dissipa, et avant que Harry s'en soit rendu compte, un autre décor s'était déjà constitué autour de lui. Il se trouvait à présent dans un petit bosquet d'arbres et voyait entre les troncs une rivière scintiller au soleil. Les ombres projetées par les feuillages formaient comme un bassin de fraîcheur verte à l'abri du soleil. Deux enfants étaient assis en tailleur sur le sol face à face. Rogue avait enlevé sa veste à présent. Son étrange blouse paraissait moins insolite dans la demi-obscurité.
« Et le ministère peut te punir si tu fais de la magie en dehors de l'école. Tu reçois des lettres ?»«
Mais moi, j'ai fait de la magie en dehors de l'école. » »«
Ben, nous, ça va, parce qu'on n'a pas encore de baguette. Ils te laissent tranquille quand tu es un enfant et que tu n'y peux rien. Mais dès qu'on a 11 ans,
il hocha la tête d'un air important, et
qu'il commence à nous apprendre des choses, il faut être prudent. »
Il y eut un bref silence. Lily avait ramassé une brindille qu'elle faisait tournoyer en l'air, et Harry savait qu'elle imaginait une traînée d'étincelles jaillissant à son extrémité. Puis elle laissa tomber la brindille, se pencha vers le garçon et demanda
« C'est vrai, hein? C'est pas une blague? Pétunia dit que tu mens. Pétunia dit que Poudlard n'existe pas. Mais c'est vrai, hein? C'est vrai, n'est-ce pas? »
« Mais c'est vrai, pour nous, » répondit Rogue. « Pas pour elle. Mais toi et moi, nous recevrons la lettre. »
« Vraiment ?»
murmura Lily.
« Sûr et certain, » affirma Rogue.
En dépit de ses cheveux mal coupés et de ses vêtements bizarres, il paraissait étrangement impressionnant, étalé devant elle, débordant de confiance en son destin.
« Et c'est vraiment un hibou qui apportera la lettre ?»
chuchota Lily.
« Normalement, oui, » assura Rogue. « Mais tu es né moldu. Il y aura donc quelqu'un de l'école qui viendra expliquer tout ça à tes parents. »
« Est-ce que ça fait vraiment une différence d'être né moldu ?»
Rogue hésita. Dans l'ombre verte des arbres, ses yeux noirs se posèrent avec ardeur sur le visage au teint pâle, les cheveux d'un roux foncé.
« Non, » répondit-il, « ça ne fait aucune différence. »«
Très bien, »
dit Lily en se détendant. Manifestement, elle s'était inquiétée à ce sujet.
« Il y a beaucoup de magie en toi, » reprit Rogue. « Je l'ai vu pendant tout le temps où je t'ai observé. »
Sa voix se perdit. Elle ne l'écoutait plus. Elle s'était étendue dans l'herbe et contemplait les feuillages qui formaient comme une voûte au-dessus de sa tête. Il la regarda avec la même avidité que lorsqu'il l'épiait sur le terrain de jeu.
« Comment ça va chez toi ?»
demanda Lily. Un pli apparut entre les yeux de Rogue.
« Très bien, »
dit-il.
« Ils ne se disputent plus ?»«
Oh, si, ils continuent. »
Rogue ramassa une poignée de feuilles et se mit à les déchirer sans paraître conscient de ce qu'il faisait.
« Mais ce ne sera plus très long maintenant. Je partirai bientôt. »«
Ton père n'aime pas la magie ?»
« Il n'aime pas grand-chose, » répondit Rogue.
« Sévrus ?»
Un petit sourire tordit les lèvres de Rogue lorsqu'elle prononça son nom.
« Oui ?»« Parle-moi encore des détraqueurs. »«
Pourquoi tu t'intéresses à eux ?»«
Mais si je pratique la magie en dehors de l'école ?»«
Mais ils ne t'enverront pas chez les détraqueurs pour ça. Les détraqueurs, c'est pour les gens qui font vraiment quelque chose de mal. »«
Ils sont les gardiens d'Azkaban, la prison des sorciers. » Tu ne finiras pas à Azkaban, tu es trop. »
Il rougit à nouveau et lacéra d'autres feuilles entre ses doigts. Puis, un léger bruissement derrière Harry le fit se retourner. Pétunia, qui s'était cachée derrière un arbre, venait de perdre l'équilibre.
« Tu nies ?»
s'exclama Lily. Sa voix exprimait la surprise et le contentement de la voir apparaître. Rogue, lui, s'était relevé d'un bond.
« Et qu'est-ce qui espionne l'autre, maintenant » s'écria-t-il. « Qu'est-ce que tu veux ?»
Pétunia avait le souffle court, affolée d'avoir été découverte. Harry voyait qu'elle s'efforçait de trouver quelque chose de blessant à dire.
« Avec quoi tu t'es habillée d'abord ? »
demanda-t-elle en montrant la chemise de Rogue.
« Le corsage de ta mère ?»
Il y eut un crac. Une branche au-dessus de la tête de Pétunia était tombée. Lily poussa un hurlement. La branche avait heurté l'épaule de sa sœur qui recula d'un pas chancelant et fondit en larmes.
« Tunny !»
Mais Pétunia s'enfuyait déjà. Lily se tourna vers Rogue.
« C'est toi qui as fait ça ?»«
Non. » Le défi et la peur se mêlaient dans sa voix.
« Si, c'est toi !»
Elle s'écarta de lui à reculons.
« C'est toi. Tu lui as fait mal. »«
Non, non, c'est pas moi !»
Mais Lily ne se laissa pas convaincre par son mensonge. Elle lui lança un dernier regard flamboyant, puis s'enfuit à son tour du petit bosquet, courant après sa sœur. Et Rogue resta là, malheureux, désemparé. Le décor changea à nouveau. Jetant un coup d'œil, Harry vit qu'il était sur le quai de la voie 9 trois quarts. Rogue se tenait à côté de lui, les épaules légèrement voûtées, en compagnie d'une femme mince, le visage cireux, l'air revêche qui lui ressemblait beaucoup. Rogue observait une famille de 4 personnes un peu plus loin. 2 fillettes se tenaient un peu à l'écart de leurs parents. Lily semblait implorer sa sœur. Harry s'approcha pour écouter.
« Je suis désolée, Tunny, désolée. »
Elle lui prit la main et la serra étroitement, bien que Pétunia essayât de se dégager.
« Peut-être que quand je serai là-bas... Écoute-moi, Tunny, peut-être que quand je serai là-bas, je pourrai aller voir le professeur Dumbledore et le convaincre de changer d'avis. »
« Je ne veux pas. Je ne veux pas y aller !»
répondit Pétunia. Elle s'efforça d'arracher sa main à l'étreinte de sa sœur.
« Tu crois que j'ai envie de me retrouver dans un stupide château pour apprendre à être une... »
Son regard pâle erra sur le quai, sur les chats qui miaulaient dans les bras de leur propriétaire, sur les hiboux qui échangeaient des ululements en voletant dans leur cage, sur les élèves, certains déjà vêtus de leurs longues robes noires, chargeant leurs grosses valises dans le train à la locomotive écarlate ou se saluant avec des cris joyeux, contents de se retrouver après la séparation de l'été.
« Tu veux que je devienne un monstre ?»
Les yeux de Lily se remplirent de larmes et Pétunia parvint à dégager sa main de celle de sa sœur.
« Je ne suis pas un monstre, » répondit Lily. « C'est horrible de dire ça. »
« En tout cas, c'est chez eux que tu vas, »
répliqua Pétunia avec délice.
« Une école spéciale pour les monstres, toi et ce petit Rogue. Des cinglés, voilà ce que vous êtes, tous les deux. Heureusement qu'on vous sépare des gens normaux, c'est pour notre sécurité à nous. »
Lily lança un coup d'œil à ses parents. Ils regardaient autour d'eux avec un plaisir sans réserve, se délectant de ce qu'ils voyaient. Puis elle se tourna à nouveau vers sa sœur et parla d'une voix basse, féroce.
« Tu ne pensais pas tellement que c'était une école de monstres quand tu as écrit au directeur pour le supplier de te prendre comme élève. »
Pétunia devint écarlate.
« Supplier ? Je n'ai pas supplié du tout. »
« J'ai vu qu'il t'avait répondu. C'était gentil de sa part. »«
Tu n'aurais pas dû la lire, »
murmura Pétunia.
« Cette lettre était personnelle. Comment as-tu pu ?»
Lily se trahit en jetant un vague regard vers l'endroit où était Rogue. Pétunia sursauta.
« C'est lui qui l'a trouvé. Toi et ce garçon, vous êtes entrés en douce dans ma chambre. »«
Non, pas en douce. »
Lily était sur la défensive à présent.
« Sévrus a vu l'enveloppe et il n'arrivait pas à croire qu'une moldue ait pu entrer en contact avec Poudlard. Voilà tout. » Il a dit qu'il devait y avoir des sorciers qui travaillent clandestinement à la poste et qui s'occupent d'envoyer.
« Apparemment, les sorciers mettent leur nez partout !»
l'interrompit Pétunia, qui avait maintenant pâli autant qu'elle avait rougi précédemment.
« Monstre !»
cracha-t-elle, avant de retourner à grands pas vers ses parents. Le décor s'effaça une nouvelle fois. À présent, Rogue se hâtait le long d'un couloir du Poudlard Express qui brinque-ballait à travers la campagne. Il avait déjà mis sa robe de l'école. Peut-être même était-ce la première fois qu'il avait l'occasion de se débarrasser de ses horribles vêtements de moldu. Il s'arrêta devant un compartiment où avait pris place un groupe de garçons chahuteurs, absorbés dans leur conversation. Pelotonnée dans un coin, à côté de la fenêtre, Lily était assise, le front contre la vitre. Rogue fit coulisser la porte du compartiment et s'installa face à Lily. Elle lui jeta un coup d'œil, puis se tourna à nouveau vers la fenêtre. Elle avait pleuré.
« Je veux pas te parler, »
dit-elle d'une voix étranglée.
« Pourquoi ?»« Tu nies me détestes parce qu'on a vu la lettre de Dumbledore. »
« Et alors ?» Elle le regarda avec un air de profonde répugnance.
« Et alors, c'est ma sœur ?»«
Bah, elle n'est qu'une, il se rattrapa à temps. » Lily, trop occupée à s'essuyer les yeux sans qu'on la remarque, ne l'entendit pas.
« En tout cas, on y va !»
s'exclama Rogue, incapable de dissimuler le ton euphorique de sa voix.
« Ça y est, nous sommes en route pour Poudlard !»
Elle acquiesça d'un signe de tête en se tamponnant les yeux et esquissa un sourire malgré elle.
« Il vaut mieux être à Serpentard !»
poursuivit Rogue, encouragé par l'expression un peu plus engageante de Lily.
« Serpentard ?»
Dans le compartiment, l'un des garçons qui, jusqu'à présent, n'avait pas manifesté pour eux le moindre intérêt, tourna la tête en entendant ce nom. Harry, dont l'attention s'était entièrement concentrée sur Lily et Rogue, vit alors son père. Il était mince et avait les cheveux noirs comme Rogue, mais il donnait l'impression indéfinissable d'avoir été aimé, adoré même, ce qui n'était évidemment pas le cas de Rogue.
Qui a envie d'être un serpentard ? Moi, je préférerais quitter l'école, pas toi ?
Demanda James au garçon qui se prélassait sur la banquette d'en face. Avec un sursaut, Harry reconnut Sirius. Sirius ne sourit pas.
Toute ma famille était à Serpentard, répondit-il.
Nom de nom ! S'exclama James. Et moi qui croyais que tu étais quelqu'un de bien ?
Sirius eut enfin un sourire.
Peut-être que je ferai une entorse à la tradition. « Où veux-tu être, toi, si t'as le choix ?»
James souleva une épée invisible.
« Si vous allez à Gryffondor, vous rejoindrez les courageux, comme mon père !»
Rogue émit une petite exclamation méprisante. James reporta son attention sur lui.
« Ça te pose un problème ?»«
Non, »
répondit Rogue, bien que son léger ricanement indiquât le contraire.
« Si tu préfères le biceps à l'intellect ?»«
Et toi ?» « Où comptes-tu aller, étant donné que tu n'as ni l'un ni l'autre ?» lança Sirius.
James éclata de rire. Lily se redressa, le teint rougissant, et regarda successivement James et Sirius avec hostilité.
« Viens, Severus, on va changer de compartiment. »«
Oh !»
James et Sirius imitèrent sa voix hautaine. James essaya de faire un croche-pied à Rogue lorsqu'il passa devant lui.
« À bientôt, Servilus !»
lança une voix au moment où la porte du compartiment se refermait bruyamment. Une fois de plus, l'image s'effaça. Harry, maintenant, était juste derrière Rogue, face aux tables de la grande salle, autour desquelles s'alignaient des visages subjugués. Le professeur McGonagall annonça
« Evans, Lily !»
Il regarda sa mère s'avancer, les jambes tremblantes, et s'asseoir sur le tabouret branlant. Le professeur McGonagall posa sur sa tête le chapeau magique. Une seconde à peine après être entré en contact avec la chevelure roux foncée, le chapeau s'écria
« Gryffondor !»
Harry entendit Rogue pousser un petit grognement. Lily enleva le chapeau, le rendit au professeur McGonagall, puis se précipita vers les Gryffondors qui l'accueillirent avec des acclamations. Au passage, elle jeta un coup d'œil à Rogue et eut un petit sourire triste. Harry vit Sirius se pousser sur le banc pour lui faire de la place. Elle lui lança un regard, sembla le reconnaître pour l'avoir déjà vu dans le train, croisa les bras et lui tourna résolument le dos. L'appel continua. Harry regarda Lupin, Petit Gros, et son père rejoindre Lily et Sirius à la table des Gryffondors. Enfin, lorsqu'il ne resta plus qu'une douzaine d'élèves à répartir, le professeur McGonagall appela Rogue. Harry le suivit jusqu'au tabouret et l'observa quand il posa le chapeau sur sa tête.
« Serpentard !»
s'écria le chapeau magique. Severus Rogue se dirigea de l'autre côté de la grande salle, loin de Lily, vers les Serpentards qui l'applaudissaient. Lucius Malfoy, un insigne de préfet brillant sur sa poitrine, tapota l'épaule de Rogue lorsqu'il s'assit à côté de lui. Nouveau changement de décor. Lily et Rogue traversaient la cour du château. De toute évidence, ils se disputaient. Harry se dépêcha de les rattraper afin d'entendre ce qu'ils disaient. Lorsqu'il arriva à leur hauteur, il s'aperçut qu'ils avaient beaucoup grandi. Plusieurs années semblaient avoir passé depuis leur répartition.
« Pensais que nous étions amis, » déclarait Rogue, « et même les meilleurs amis, non ?»«
C'est vrai, Sève, mais je n'aime pas certaines personnes que tu fréquentes. Je suis désolé. Je déteste Avery et Mulcibert. Mulcibert, oh ! Mais qu'est-ce que tu lui trouves, Sève ?
Il me donne la chair de poule. Tu sais ce qu'il a essayé de faire à Mary MacDonald l'autre jour ?»
Lily s'était approchée d'un pilier et s'y adossa, observant le visage mince et cireux.
« Ce n'était rien, » assura Rogue. « Une simple plaisanterie, rien de plus. »«
C'était de la magie noire, si tu trouves ça drôle. »«
Et tout ce que font Potter et ses copains, » répliqua Rogue.
Son visage se colora à nouveau. Il était apparemment incapable de contenir sa rancœur.
« Qu'est-ce que Potter a à voir là-dedans ?»
s'étonna Lily. « Il sort en douce la nuit. Il y a quelque chose de bizarre chez ce Lupin. Où va-t-il comme ça ?»«
Il est malade, »
répondit Lily.
« C'est ce qu'on dit. »«
Tous les mois, à la pleine lune ?»«
Je connais ta théorie, » reprit Lily d'un ton glacial. « D'ailleurs, pourquoi es-tu tellement obsédé par eux ? Pourquoi t'occupes-tu de ce qu'ils fabriquent la nuit ?»«
J'essaye simplement de te montrer qu'ils ne sont pas aussi merveilleux que tout le monde semble le croire. »
L'intensité du regard de Rogue fit rougir Lily.
« Eux, au moins, ne pratiquent pas la magie noire. »
Elle baissa la voix.
« Et tu es bien ingrat. Et j'ai entendu parler de ce qui s'est passé l'autre nuit. Tu t'es faufilé dans ce tunnel sous le saule cogneur, et James Potter t'a sauvé de ce qu'il y a là-bas. »
Les traits de Rogue se déformèrent, et il bredouilla.
« Sauvé, sauvé.
Tu crois qu'il jouait les héros ? C'était sa peau qu'il sauvait, et celle de ses amis. Tu ne vas pas. Je ne te permettrai pas. »
« Me permettre ? Me permettre ?»
Les yeux d'un vert brillant de Lily n'étaient plus que deux fentes. Rogue battit aussitôt en retraite.
« Je voulais pas dire... Enfin, simplement, je ne veux pas que le ridicule te... Tu lui plais. Tu lui plais à James Potter. » Les mots semblaient lui avoir été arrachés de la bouche contre son gré. Et il n'est pas... Tout le monde pense... Le grand héros du Quidditch.
L'amertume de Rogue, son aversion le rendait incohérent, et les sourcils de Lily se haussaient de plus en plus à mesure qu'il parlait.
« Je sais que James Potter est un voyou arrogant, » interrompit Lily. « Je n'ai pas besoin de toi pour me le dire, mais l'idée que se font Mulcibert et Avery de l'humour relève de la pure et simple malfaisance. La malfaisance, Sève. Je ne comprends pas comment tu peux être ami avec eux. »
Harry doutait que Rogue ait entendu les critiques de Lily à l'égard de Mulcibert et d'Avery. Dès l'instant où elle avait insulté James Potter, le corps de Rogue s'était détendu et lorsqu'ils marchèrent à nouveau côte à côte, son pas paraissait plus léger. Une fois de plus, le décor s'effaça. Rogue apparut à nouveau devant Harry. Il quittait la grande salle après avoir passé son épreuve de buse en défense contre les forces du mal. Harry le vit sortir du château et se hasarder par inadvertance près du hêtre sous lequel James, Sirius, Lupin et Petit Gros s'étaient assis. Mais cette fois, Harry resta à l'écart. Il savait comment les choses s'étaient passées après que James eut ridiculisé Rogue en lui jetant un sort qu'il avait suspendu en l'air, la tête en bas. Il savait ce qui avait été fait et dit et n'aurait éprouvé aucun plaisir à revoir la scène. Il regarda Lily se joindre au groupe et prendre la défense de Rogue. À distance, il entendit ce dernier lui crier dans sa rage et son humiliation le mot impardonnable.
« Sans bourbe !»
Nouveau changement de décor.
« Je suis désolé. »«
Ça ne m'intéresse pas. »«
Je suis désolé. » »«
Épargne ta salive. »
C'était le soir. Lily, vêtue d'une robe de chambre, se tenait les bras croisés devant le portrait de la grosse dame à l'entrée de la tour de Gryffondor.
« Je suis sorti seulement parce que Marie m'a dit que tu menaçais de dormir ici. »«
C'est vrai. Je l'aurais fait. Je n'ai jamais eu l'intention de te traiter de sandbourbe. Ça m'a simplement échappé. »
Il n'y avait aucune pitié dans la voix de Lily. « Il est trop tard. Pendant des années, je t'ai trouvé des excuses. Aucun de mes amis ne comprend pourquoi j'accepte encore de te parler. Toi et tes chers amis mange-mort. Tu vois, tu ne le nies même pas. Tu ne nies même pas que vous avez tous l'ambition de le devenir. Vous avez hâte de rejoindre tu sais qui, n'est-ce pas ?» Il ouvrit la bouche, puis la referma sans avoir prononcé un mot. « Je ne veux plus faire semblant. Tu as choisi ta voie, j'ai choisi la mienne. Non, écoute, je ne voulais pas. Me traiter de sandbourbe? Mais tu traites de sandbourbe tous les gens qui sont de même naissance que moi, Sévrus. Pourquoi serais-je différente ?» Luttant avec lui-même, il était sur le point de parler, mais avec un regard méprisant, Lily tourna les talons et se glissa par le trou du portrait. Le couloir disparut, et le décor suivant mit un peu plus longtemps à se constituer. Harry eut l'impression de voler parmi les formes et les couleurs changeantes, jusqu'à ce que les choses se solidifient à nouveau autour de lui. Il se retrouva alors au sommet d'une colline, froide et désolée dans l'obscurité, le vent sifflant à travers les branches de quelques arbres sans feuilles. Rogue, adulte à présent, tournait sur lui-même, le souffle court. Sa baguette magique étroitement serrée dans sa main, il attendait quelque chose ou quelqu'un. Harry se sentit contaminé par sa peur, même s'il savait qu'il ne risquait rien, et il regarda par-dessus son épaule en se demandant ce que Rogue attendait ainsi. Puis, un éclair blanc, aveuglant, en forme de ligne brisée, traversa l'atmosphère. Harry crut que c'était la foudre, mais Rogue était tombé à genoux et sa baguette lui avait sauté des mains.
« Ne me tuez pas !»
« Ce n'était pas mon intention !»
Le bruit qu'avait dû faire Dumbledore en transplanant avait été couvert par le sifflement du vent dans les branches. Il se tenait devant Rogue, les pans de sa robe claquant autour de lui, le visage éclairé par-dessous à la lumière que projetait sa baguette.
« Eh bien, Sévrus, quel est le message que Lord Voldemort veut me transmettre ?»«
Pas. » « Pas de message. Je suis venu ici de ma propre initiative. »
Rogue se tordait les mains. Il paraissait un peu fou avec ses cheveux noirs en bataille qui voltaient autour de lui.
« C'est une mise en garde. Non, plutôt une demande, s'il vous plaît. »
Dumbledore donna un petit coup de baguette. Les feuilles et les branches continuèrent de voler autour d'eux, portées par le vent nocturne. Mais le silence tomba à l'endroit précis où Rogue et lui se faisaient face.
« Quelle demande pourrait donc me faire un mange-mort ?»«
La prophétie, la prédiction de Trelawney. »«
Ah oui !»
dit Dumbledore.
« Qu'avez-vous communiqué à Lord Voldemort ?»«
Tout ce que j'ai entendu, » répondit Rogue. « C'est pour cette raison. » Il pense qu'il s'agit de Lily Evans.
La prophétie ne mentionnait pas une femme,
fit observer Dumbledore.
Elle parlait d'un garçon né à la fin du mois de juillet.
Vous savez bien ce que je veux dire. Il pense que c'est son fils. Il va la traquer, les tuer tous.
« Si elle a tant d'importance à vos yeux, »
reprit Dumbledore,
« Lord Voldemort l'épargnera sûrement. Ne pouvez-vous lui demander la grâce de la mère en échange de son fils ?»«
Je l'ai déjà demandé. »«
Vous me dégoûtez, »
coupa Dumbledore. Harry n'avait jamais entendu un tel mépris dans sa voix. Rogue sembla se ratatiner.
« Vous ne vous souciez donc pas de la mort de son mari et de son enfant ? Ils peuvent bien disparaître, hein, du moment que vous obtenez ce que vous voulez. »
Rogue resta silencieux. Il se contenta de lever les yeux vers Dumbledore.
« Cachez-les tous, dans ce cas. »
dit-il d'une voix rauque.
« Mettez-les à l'abri
s'il vous plaît.
Et que me donnerez-vous en échange, Severus?
En échange, je...
Rogue regarda Dumbledore bouche bée. Harry s'attendait à l'entendre protester, mais au bout d'un long moment, il ajouta
« Ce que vous voudrez. »
Le sommet de la colline s'estompa, et Harry se retrouva dans le bureau de Dumbledore. Il entendit un son horrible, comme la plainte d'un animal blessé. Rogue était affalé dans un fauteuil, le visage entre les mains, et Dumbledore se tenait devant lui, la mine sinistre. Au bout d'un moment, Rogue releva la tête. Depuis qu'il avait quitté le sommet de la colline désolée, il avait l'air d'un homme qui aurait vécu un siècle de misère.
« Je croyais que vous alliez la mettre en sûreté. »
« James et elle ont accordé leur confiance à quelqu'un qui ne la méritait pas, »
répondit Dumbledore.
« Un peu comme vous, Severus. N'espériez-vous pas que Lord Voldemort l'épargnerait ?»
Rogue avait du mal à respirer.
« Son fils a survécu, »
poursuivit Dumbledore. Rogue eut un petit mouvement de tête, comme s'il chassait une mouche exaspérante.
« Son fils a survécu. Il a ses yeux. Exactement les mêmes. Vous vous souvenez sûrement de la forme et de la couleur des yeux de Lily Evans ?»«
Arrêtez !» beugla Rogue.
« Partie. Morte. Ce reste du remords, Severus.
Je voudrais... moi, être mort.
Et en quoi cela servirait-il? À qui que ce soit?
Interrogea Dumbledore avec froideur.
Si vous aimiez Lily Evans, si vous l'aimiez vraiment, la voie qui s'offre à vous est toute tracée.
Le regard de Rogue semblait perdu dans une brume de douleur, et on avait l'impression que les paroles de Dumbledore mettaient longtemps à l'atteindre.
Que voulez-vous dire?
Vous savez comment et pourquoi elle est morte. Faites en sorte que cela n'ait pas été en vain. Aidez-moi à protéger le fils de Lily.
Il n'a pas besoin de protection. Le Seigneur des Ténèbres n'est plus là.
Le Seigneur des Ténèbres reviendra. Et un terrible danger menacera alors Harry Potter.
Il y eut un long silence, et Rogue reprit lentement le contrôle de lui-même, maîtrisant sa respiration. Enfin, il parla à nouveau.
« Très bien, très bien. Mais ne le dites jamais à personne, Dumbledore. Jamais à personne. Cela doit rester entre nous, jurez-le. Je ne peux pas supporter. Surtout le fils de Potter. Je veux votre parole. »
« Vous voulez ma parole, Severus, que je ne révélerai jamais ce qu'il y a de meilleur en vous ?»
soupira Dumbledore en baissant les yeux sur le visage à la fois féroce et angoissé de Rogue.
« Si vous insistez... »
Le bureau s'effaça et se reconstitua aussitôt. Cette fois, Rogue faisait les 100 pas devant Dumbledore.
« Médiocre. Aussi arrogant que son père, décidé à ne tenir compte d'aucune règle, ravi de découvrir qu'il est célèbre, cherchant toujours à se rendre intéressant, impertinent.
Vous voyez uniquement ce que vous vous attendiez à voir, Severus,
répondit Dumbledore sans lever les yeux de son numéro du mensuel de la métamorphose.
D'autres enseignants affirment que ce garçon est modeste, sympathique et raisonnablement doué à titre personnel. Je le trouve assez attachant.
Dumbledore tourna une page de son magazine et ajouta, toujours sans lever la tête,
« Surveillez un peu, Quirrell, voulez-vous ?»
Il y eut un tourbillon de couleurs. Tout devint plus sombre et Rogue réapparut non loin de Dumbledore, tandis que les derniers retardataires du bal de Noël passaient devant eux en allant se coucher.
« Alors ?»
murmura Dumbledore.
« La marque de Karkaroff devient également plus nette. Il est paniqué, il a peur des représailles. Vous savez toute l'aide qu'il a apportée au ministère après la chute du Seigneur des Ténèbres. »
Rogue lança un regard en biais vers le profil au nez aquilin de Dumbledore.
« Et Karkaroff a l'intention de prendre la fuite si la marque le brûle. »«
Vraiment ?»
répondit Dumbledore d'une voix douce, alors que Fleur de la Cour et Roger Davis revenaient du parc en gloussant de rire.
« Et vous avez l'intention de l'imiter ?»«
Non, » répondit Rogue, ses yeux noirs suivant les silhouettes de Fleur et de Roger qui s'éloignaient. « Je ne suis pas un lâche. »«
En effet, »
approuva Dumbledore.
« Vous êtes plus courageux et de très loin qu'Igor Karkaroff. Vous savez, parfois je pense que nous répartissons un peu trop tôt. »
Il s'en alla, laissant Rogue désemparé. À présent, Harry était de retour dans le bureau du directeur. C'était la nuit, et Dumbledore s'était affaissé de côté dans son fauteuil en forme de trône, derrière sa table, l'air à moitié inconscient. Sa main droite noircie, brûlée, pendait par-dessus la coudoir. Rogue marmonnait des incantations, pointant sa baguette sur le poignet meurtri, pendant que, de sa main gauche, il penchait au-dessus des lèvres de Dumbledore une coupe remplie d'une épaisse potion dorée. Au bout d'un certain temps, les paupières de Dumbledore frémirent et s'ouvrirent.
« Pourquoi ?» dit Rogue sans préambule. « Pourquoi avez-vous mis cette bague ? Elle est frappée d'un maléfice. Vous vous en êtes sûrement rendu compte. Pourquoi même y avez-vous touché ?»
La bague de Marvolo Gaunt était posée sur le bureau, devant Dumbledore. Elle était fendue, l'épée de Gryffondor à côté d'elle. Dumbledore fit une grimace.
« J'étais stupide. J'étais terriblement tenté. »«
Tenté par quoi ?»
Dumbledore ne répondit pas.
« C'est un miracle que vous ayez réussi à revenir ici. »
Rogue paraissait furieux.
« Cette bague porte en elle un maléfice d'une extraordinaire puissance. Tout ce que nous pouvons espérer, c'est d'en limiter les effets. Pour l'instant, j'ai enfermé le sortilège dans une seule main. »
Dumbledore leva sa main noircie, devenue inutile, et l'examina avec l'expression de quelqu'un à qui on montre un intéressant bibelot.
« Vous avez très bien fait, Severus. Et combien de temps me reste-t-il, à votre avis ?»
Dumbledore parlait sur le ton de la conversation. Il aurait pu tout aussi bien demander les prévisions météorologiques. Rogue hésita, puis répondit.
« Je ne saurais le dire. Peut-être un an. » On ne peut arrêter indéfiniment un tel sortilège. Il finira par se répandre, c'est le genre de maléfice qui se renforce avec le temps.
Dumbledore sourit. Apprendre qu'il lui restait moins d'un an à vivre ne sembla guère le préoccuper, et même pas du tout.
« J'ai de la chance. Beaucoup de chance de vous avoir, Severus. »
Si seulement vous m'aviez appelé un peu plus tôt, j'aurais pu faire davantage pour gagner un peu plus de temps, répliqua Rogue avec colère.
Il regarda la bague fendue et l'épée.
Pensiez-vous que briser la bague briserait le maléfice?
Quelque chose comme ça. J'étais en plein délire, sans nul doute,
dit Dumbledore. Au prix d'un gros effort, il se redressa dans son fauteuil.
« En fait, voilà qui rend les choses plus simples. »
Rogue parut éminemment perplexe. Dumbledore sourit.
« Je veux parler du plan que Voldemort a échafaudé à mon intention. Son plan pour amener le malheureux Malfoy à me tuer. »
Rogue s'assit dans le fauteuil que Harry avait si souvent occupé, face au bureau du directeur. Harry voyait bien qu'il aurait voulu en dire plus au sujet de la main blessée de Dumbledore, mais d'un geste de cette même main, celui-ci refusa poliment d'en parler plus longtemps. Le visage renfrogné, Rogue déclara
« Le Seigneur des Ténèbres ne s'attend pas à ce que Drago réussisse. Il s'agit d'un simple châtiment destiné à punir les récents insuccès de Lucius. Une torture lente pour que ses parents voient Drago échouer et en payer le prix. »
En résumé, ce garçon est condamné à mort aussi sûrement que moi,
dit Dumbledore.
J'aurais tendance à croire que le successeur naturel pour accomplir ce travail, une fois que Drago aura échoué, sera vous-même.
Il y eut un bref silence.
Je pense que c'est le plan du Seigneur des Ténèbres.
Lord Voldemort prévoit donc que, dans un avenir proche, il n'aura plus besoin d'espions à Poudlard.
Il estime en effet que l'école tombera bientôt sous sa coupe.
Et si elle tombe sous sa coupe,
reprit Dumbledore, presque en aparté, semblait-il.
J'ai votre parole que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour protéger les élèves de Poudlard.
Rogue acquiesça en hochant la tête avec raideur.
Bien, bien. Alors voilà, votre première priorité sera de découvrir ce que prépare Drago. Un adolescent apeuré est un danger pour les autres comme pour lui-même. Offrez-lui une aide et des conseils. Il devrait accepter. Il vous aime bien.
Beaucoup moins depuis que son père est en disgrâce. Drago m'en rend responsable. Il pense que j'ai usurpé la position de Lucius.
Essayez quand même. Je suis moins inquiet pour moi que pour les éventuelles victimes des stratagèmes auxquels ce garçon pourrait avoir recours. Bien entendu, il n'y aura qu'une seule chose à faire. En définitive, si nous voulons le sauver de la colère de Lord Voldemort.
Rogue haussa les sourcils et demanda d'un ton railleur
« Vous avez l'intention de le laisser vous tuer ?»«
Certainement pas. C'est vous qui devrez me tuer. »
Un long silence s'installa, brisé seulement par l'étrange claquement que produisait Fumesec, le phénix, en donnant des coups de bec dans un os de sèche.
« Vous voulez que je le fasse maintenant ?» interrogea Rogue d'un ton chargé d'ironie. « Ou souhaitez-vous que je vous accorde quelques instants de répit pour composer une épitaphe ?»«
Oh, nous ne sommes pas pressés !»
répondit Dumbledore en souriant.
« J'imagine que l'occasion se présentera le moment venu, étant donné ce qui s'est passé ce soir. »
Il montra sa main desséchée.
« On peut être sûr que cela arrivera d'ici un an. »«
Si mourir ne vous gêne pas, »
lança Rogue d'un ton rude,
« pourquoi ne pas laisser Drago se charger de vous tuer ?»«
L'âme de ce garçon n'est pas encore trop abîmée, »
assura Dumbledore.
« Je ne voudrais pas qu'elle soit ravagée à cause de moi. »«
Et mon âme à moi, Dumbledore ? La mienne ?»
Vous seul pouvez savoir si le fait d'aider un vieil homme à échapper à la douleur et à l'humiliation affectera votre âme,
répondit-il.
Je vous demande cette grande et unique faveur, Severus, car la mort vient à moi aussi sûrement que les canons de Chudley arriveront dernier du championnat cette année. Je dois vous avouer que je préférerais une sortie rapide et indolore plutôt que longue et répugnante si, par exemple, Greybach s'en mêlait. J'ai entendu dire que Voldemort l'avait pris à son service. Ou encore, si jamais j'avais affaire à cette chère Bellatrix qui aime bien jouer avec la nourriture avant de la manger.
Il avait le ton léger, mais ses yeux bleus transperçaient Rogue à la manière dont ils avaient si souvent transpercé Harry, comme si l'âme dont il s'agissait lui était visible. Enfin, Rogue acquiesça à nouveau d'un bref signe de tête. Dumbledore parut satisfait.
« Merci, merci, Severus. »
Le bureau disparut. À présent, Rogue et Dumbledore côte à côte se promenaient au crépuscule dans le parc désert du château.
« Qu'est-ce que vous faites avec Potter pendant toutes ces soirées où vous êtes enfermés tous les deux ?»
demanda brusquement Rogue. Dumbledore eut un air las.
« Pourquoi ? Vous voudriez lui infliger encore plus de retenue, Severus ? Ce garçon aura bientôt passé plus de temps en retenue que dehors. »
« On dirait que c'est son père qui est revenu. »
« Dans son apparence physique, peut-être, mais sa nature profonde est plus proche de celle de sa mère. Je passe ces soirées avec Harry, car je dois m'entretenir de certains sujets avec lui, lui donner des informations avant qu'il ne soit trop tard. »«
Des informations ?» répéta Rogue. « Vous avez confiance en lui, vous n'avez pas confiance en moi. »
« Ce n'est pas une question de confiance. Comme nous le savons tous les deux, le temps m'est compté. Il est essentiel que je fournisse à ce garçon suffisamment d'éléments pour qu'il puisse accomplir la tâche qui lui incombe. »«
Et pourquoi ne puis-je prendre connaissance de ces mêmes éléments ?»«
Je préfère ne pas mettre tous mes secrets dans le même panier, surtout dans un panier qui passe autant de temps accroché au bras de Lord Voldemort. »
« Ce que je fais sur votre ordre. »«
Et vous le faites très bien. Ne croyez pas que je sous-estime le danger permanent dans lequel vous vous placez, Severus. Transmettre à Voldemort des renseignements précieux, tout en lui cachant l'essentiel, est un travail que je ne confierai à personne d'autre que vous. »«
Pourtant, vous révélez beaucoup plus de choses à un garçon incapable de pratiquer l'occlumencie. » Un garçon dont les capacités magiques sont médiocres et qui a une connexion directe avec l'esprit de Lord Voldemort.
Voldemort redoute cette connexion,
dit Dumbledore.
Il n'y a pas si longtemps, il a eu un avant-goût de ce que pouvait signifier pour lui le fait de partager véritablement l'esprit de Harry. Jamais il n'avait connu une telle douleur. Et je suis sûr qu'il ne tentera plus de le posséder. Pas de cette manière, en tout cas.
Je ne comprends pas.
L'âme de Voldemort, mutilée comme elle l'est, ne peut supporter un contact étroit avec une âme comme celle de Harry. Telle la langue sur l'acier gelé ou la chair dans le feu.
L'âme, nous parlions d'esprit.
« Dans le cas de Harry et de Lord Voldemort, quand on parle de l'un, on parle aussi de l'autre. »
Dumbledore jeta un regard autour de lui pour s'assurer qu'ils étaient seuls. Ils étaient proches de la forêt interdite à présent, mais il n'y avait apparemment personne dans les environs.
« Après m'avoir tué, Severus ?»«
Vous refusez de tout me dire. » « Mais vous voulez quand même que je vous rende ce petit service ?»
gronda Rogue. Son visage mince brûlait maintenant d'une réelle colère.
« Vous considérez beaucoup de choses comme acquises, Dumbledore. Mais peut-être que j'ai changé d'avis ?»«
Vous m'avez donné votre parole, Severus. Et puisqu'il est question des services que vous me rendez, je croyais que nous nous étions mis d'accord. » pour que vous teniez à l'œil notre jeune ami de Serpentard. »
Rogue paraissait furieux, révolté. Dumbledore soupira.
« Venez dans mon bureau ce soir, Severus, à 11 heures, et vous ne pourrez plus vous plaindre en disant que je n'ai pas confiance en vous. »
Ils étaient de retour dans le bureau de Dumbledore. Les fenêtres étaient sombres. Fume sec, silencieux, et Rogue était assis immobile, tandis que Dumbledore parlait en faisant les 100 pas autour de lui.
« Il faut que Harry continue d'ignorer jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce qu'il lui soit nécessaire de savoir. Sinon, comment pourrait-il avoir la force d'accomplir ce qui doit être fait ?
Et que doit-il accomplir ?
Ça reste entre Harry et moi. Maintenant, écoutez-moi, écoutez-moi attentivement, Zévrus. Le moment va venir après ma mort. Ne discutez pas, ne m'interrompez pas. Le moment va venir où Lord Voldemort semblera s'inquiéter pour la vie de son serpent.
Nagini ?
Rogue parut stupéfait.
Exactement. Si un jour Voldemort cesse d'envoyer ce serpent exécuter ses ordres et le garde à l'abri auprès de lui sous protection magique, alors je pense qu'on pourra sans risque tout révéler à Harry.
Lui révéler quoi ?
Dumbledore respira profondément et ferma les yeux.
Lui révéler que le soir où Voldemort a essayé de le tuer, lorsque Lily a dressé entre deux sa propre vie comme un bouclier, le sortilège de mort a ricoché sur le Seigneur des Ténèbres et qu'un fragment de son âme lui a été arraché. Ce fragment s'est accroché à la seule âme vivante qui restait dans cette maison dévastée. Une partie de Lord Voldemort vit ainsi à l'intérieur de Harry. C'est cela qui lui donne le pouvoir de parler au serpent et qui établit avec Lord Voldemort une connexion dont il n'a jamais compris la nature. Et tant que ce fragment d'âme, à l'insu de Voldemort, reste attaché à Harry et protégé par lui, Lord Voldemort ne peut mourir.
Harry avait l'impression de voir les deux hommes à l'autre bout d'un long tunnel, tant il lui semblait loin, leur voix résonnant à ses oreilles comme un étrange écho.
« Alors, ce garçon doit mourir ?»
interrogea Rogue avec un certain calme.
« Et Voldemort devra le tuer de sa main, Zévrus. C'est essentiel. »
À nouveau, un long silence s'installa. Puis Rogue reprit.
J'ai cru, toutes ces années, que nous le protégions pour elle, pour Lily.
Nous l'avons protégé parce qu'il était fondamental d'assurer son enseignement, de l'élever, de lui permettre d'éprouver sa force,
répondit Dumbledore, les paupières toujours étroitement fermées.
Pendant ce temps, la connexion qui existait entre eux s'est développée comme une excroissance parasitaire. Parfois, et j'ai pensé qu'il le soupçonnait lui-même. Si je le connais bien, il aura fait ce qu'il faudra pour que, le jour où il ira à la rencontre de sa propre mort, ce soit aussi la fin véritable de Voldemort.
Dumbledore ouvrit les yeux. Rogue paraissait horrifié.
Vous l'avez maintenu en vie pour qu'il puisse mourir au bon moment.
Ne soyez pas choqué, Zévrus. Combien d'hommes et de femmes avez-vous vu mourir?
Récemment, seuls ceux que je n'ai pas pu sauver, dit Rogue.
Il se leva.
Vous vous êtes servi de moi.
Que voulez-vous dire ?
Que j'ai espionné pour vous, menti pour vous, que j'ai couru des dangers mortels pour vous. Tout cela devait assurer la sécurité du fils de Lily Potter. Et maintenant, vous m'annoncez que vous l'avez élevé comme un porc destiné à l'abattoir.
Oh, voilà qui est très émouvant, Zévrus,
remarqua Dumbledore d'un ton sérieux.
En êtes-vous venu à éprouver de l'affection pour ce garçon ?
Pour lui !
S'écria Rogue.
« Spero patronum !»
De l'extrémité de sa baguette jaillit alors la biche argentée. Elle atterrit sur le sol, traversa la pièce d'un bond et s'envola par la fenêtre. Dumbledore la regarda s'éloigner et lorsque sa lueur d'argent se fut évanouie, il se tourna à nouveau vers Rogue, les yeux pleins de larmes.
« Après tout ce temps... »«
Toujours... »
dit Rogue. Une nouvelle scène se déroula sous les yeux de Harry. À présent, Rogue parlait au portrait de Dumbledore derrière son bureau.
« Vous indiquerez à Voldemort la date exacte du départ de Harry de la maison de son oncle et de sa tante, »
dit Dumbledore.
« Ne pas le faire éveillerait les soupçons alors que Voldemort vous croit si bien informé. Il faudra cependant que vous suggériez l'idée des leurs. Cela devrait, je pense, assurer la sécurité de Harry. Essayez un sortilège de confusion sur mon Dingus Fletcher. Et si vous êtes contrainte de prendre part à la poursuite, Severus, veillez à jouer votre rôle de manière convaincante. Je compte sur vous pour rester dans les bonnes grâces de Voldemort le plus longtemps possible, sinon Poudlard sera à la merci des carreaux. »
Maintenant, Rogue se trouvait face à face avec Mondingus dans une taverne que Harry ne connaissait pas. Le visage de Mondingus était étrangement dénué d'expression. Rogue se concentrait les sourcils froncés.
« Vous allez proposer à l'ordre du Phénix d'utiliser des leurres, » dit Rogue à voix basse. « Avec du polynectar, plusieurs potteurs identiques, c'est la seule chose qui puisse marcher. Vous allez oublier que je vous ai fait cette suggestion. Vous la présenterez comme votre propre idée, c'est compris ?»«
Compris !»
murmura Mondingus, le regard vague. Harry se retrouva ensuite sur un balai, en train de voler à côté de Rogue, dans un ciel nocturne, sombre et sans nuages. Il était accompagné d'autres mange-morts encapuchonnés, et devant eux, il voyait Lupin avec un Harry qui était en fait George. Un mange-mort passa devant Rogue et leva sa baguette pointée sur le dos de Lupin.
« Sectum sempra !»
s'écria Rogue. Mais le sortilège qui visait la main dans laquelle le mange-mort tenait sa baguette rata sa cible et frappa George. L'instant d'après, Rogue était à genoux dans l'ancienne chambre de Sirius. Des larmes coulaient au bout de son nez crochu, tandis qu'il lisait la vieille lettre de Lily. La deuxième page ne comportait que quelques mots. « Ai jamais pu être ami avec Gellert Grindelwald. Personnellement, je crois qu'elle a un peu perdu la tête. Avec toute mon affection, Lily. » Rogue prit la feuille qui portait la signature de Lily et toute son affection, et la fourra à l'intérieur de sa robe. Puis il déchira en deux la photo qu'il tenait également à la main et garda la partie sur laquelle Lily riait, après avoir jeté par terre sous la commode le morceau qui montrait James et Harry. À présent, Rogue se trouvait à nouveau dans le bureau du directeur où Phineas Nigellus revenait précipitamment dans son tableau.
« Oh, cher directeur, il campe dans la forêt de Dean. La Sandbourg... N'utilisez pas ce terme. Non, excuse me, madame. La fille Granger, si vous préférez, a prononcé le nom au moment où elle ouvrait son sac, et je l'ai entendu.
« Bien, très bien !»
s'écria le portrait de Dumbledore derrière le fauteuil directorial.
« Maintenant, Severus, l'épée. N'oubliez pas que seule la nécessité et la bravoure permettent de s'en servir. Il ne doit pas savoir que c'est vous qui la lui avez donnée. Si Voldemort parvenait à lire dans les pensées de Harry et voyait que vous agissez en sa faveur...
« Je sais !»
coupa sèchement Rogue. Il s'approcha du portrait de Dumbledore et tira le côté du cadre. Le tableau pivota vers l'avant, révélant une cavité secrète d'où il retira l'épée de Gryffondor.
« Et vous ne voulez toujours pas me dire pourquoi il est si important de donner l'épée à Potter ?»
demanda Rogue, qui s'enveloppait dans une cape de voyage.
« Non, non, je ne crois pas, »
répondit le portrait de Dumbledore.
« Il saura ce qu'il convient d'en faire. Et agissez avec prudence, hein, Severus. Il se pourrait qu'il ne soit pas très content de vous voir après la mésaventure de George Wesley. »
Rogue se tourna vers la porte.
« Ne vous inquiétez pas, Dumbledore, » dit-il avec froideur. « J'ai un plan. »
Et il quitta le bureau. Harry s'arracha à la pensine. Et quelques instants plus tard, se retrouva étendu sur le tapis qui recouvrait le sol, exactement dans la même pièce. C'était comme si Rogue venait de refermer la porte.